Vous écoutez Patrice Perrin, l'amoureux des lettres, pour son émission au Café littéraire. Bonjour, vous êtes bien sur Radio B 90 FM, la radio des bonnes ondes, avec Patrice Perrin, l'amoureux des lettres, pour son émission au Café littéraire. En ce mois de mai 2023, il vous livre ses véritables coups de cœur avec des romans de Jan Peerce, de Janine Boissard, de Franz Kafka ne veut pas mourir, de Sexic, de Shirley Anne Gros, grande romancière du sud des États-Unis qui a reçu le prix Pulitzer en 1965, de Daniel Krause qui nous plonge dans le rouergue du XXe siècle, un siècle étonnant, comme vous le connaissez, et de Florian Denison, auteur d'un roman à découvrir sans faute. Et puis j'aurai aussi un septième livre, Les Partisans, de Dominique Bonnat, qui est de l'Académie française et qui fait un superbe livre sur Kessel, Druon et aussi une femme. Je vous en dirai plus tout à l'heure. Alors, je commence donc par le premier roman, le tome 2, de Jan Peerce, tome 2, No More Lie, ce qui veut dire plus de mensonges. C'est vrai que je vous avais présenté le premier roman. Très grande lectrice de romances, Jan Peerce s'est lancée dans l'écriture et elle y arrive vraiment très bien. Il y a une dizaine d'années, pour ne plus pouvoir s'arrêter et donner vie à des personnages affirmés et passionnés et faire voyager à travers ses écrits, donc elle nous emporte à Los Angeles le plus souvent, qu'elle semble connaître très très bien. Only, donc, est une première série publiée par Hugo Roman. Hugo Roman, voilà pourquoi je voulais parler du tome 2 qui vient de paraître. 8 années se sont écoulées depuis que Maxime, l'héroïne de cette saga, elle est partie au bout du premier volume, elle part sans un mot, on ne comprend pas pourquoi, et elle abandonne Garrett, pourtant son amoureux transi. Ils étaient l'un et l'autre très amoureux de l'un et de l'autre, et donc Garrett est dans l'incompréhension la plus totale. Déçu et en colère, il a plongé corps et âme dans la musique du jazz. Vous savez qu'il fait partie d'un ensemble de 4 musiciens. Lui est compositeur, chanteur, il s'accompagne d'une guitare. Et voilà, et donc il forme un très très bel ensemble qui va connaître un avenir fabuleux avec Arco, un ensemble, au succès phénoménal. Se brûlant les ailes au passage, donc Garrett se brûle les ailes au passage, car l'absence de Maxime a laissé des traces très douloureuses, et il retrouve ses addictions. Dans le premier volume, justement, je vais parler des addictions qui sont le grand sujet de cette série. Ces addictions, ce sont ces démons, ce sont l'alcool et le sexe facile qui ont refait surface avec le temps, puisqu'il ne se remet pas de l'absence de Maxime. Alors, lorsque le groupe de musiciens, sympas et talentueux, lance un programme de formation de jeunes talents, il ne s'attend donc pas à revoir celle qui a piétiné Maxime, celle qui a piétiné son cœur. Parce qu'elle est devenue tutrice d'une des élèves, Mégane, jeune adolescente, prometteuse d'ailleurs en musique, Mégane, et Noah, son frère, ce sont ses neveux. Et nous, on comprend pourquoi Maxime est devenu plus nature au cours de ces années-là, parce que les parents de Mégane et de Noah sont morts, et donc c'est elle qui est devenue la tutrice. Voilà pourquoi elle a dû s'absenter tout d'un coup, soudainement, et partir sans laisser de mots. En fait, on va découvrir qu'il y a eu une trahison. Elle a très très bien réussi dans la culture de l'art contemporain, ce qui est son domaine, et elle a pu progresser et même devenir directrice d'un musée, voilà. Et puis, elle est plus méfiante, et pourtant il lui manque quelque chose, c'est l'amour. Alors on va comprendre peu à peu, après, Gareth va comprendre que c'est Margot qui est jalouse, qui devait passer le renseignement et qui ne l'a pas passé parce que Margot est amoureuse de Gareth et elle n'accepte pas cette relation intime entre Maxime et Gareth. Et alors elle va former un sort de complot, une trahison, et récupérer Gareth alors que Maxime s'en va. Mais Gareth revient, et surtout dans ce livre-là, on montre très bien qu'il ne veut pas la perdre une seconde fois. Ils vont donc reformer un couple plus étincelant encore que dans le premier volume. Chacun conservant un petit peu son domaine particulier, mais elle n'empêche que Gareth va se mettre aussi à l'art contemporain, découvrir, voilà. Je vous laisse découvrir donc la suite de ce tome 2 qui vient de paraître, No More Lee de Jeanne Pierce chez Hugo Roman, un gros volume, New Romance. Voilà. Et je passe au deuxième roman que j'ai prévu de vous présenter. Elle parlait, un très beau titre, Elle parlait aux fleurs. Et c'est de Janine Boissard, que je connais depuis longtemps et qui revient, une diffusion Gilles Paris, je le souligne parce qu'il me fait parvenir des livres, des romans talentueux. C'est un roman, Elle parlait aux fleurs, c'est un roman pour moi inattendu et merveilleux. Inattendu parce que son personnage central, principal, c'est Elisa. Elisa, mais qui est surnommée Simplette par les deux grands-enfants, les deux frères, Elisa, dite Simplette, elle a un frère et une sœur aînée. C'est une famille de quincaillers, le père et la mère, donc sont quincaillers, installés au village de Montreuil-sur-Isl, proche de Rennes, où elle ira faire ses études. Enfin, ses dernières études étaient devenir bachelier. Alors, voilà, les grands, les deux plus grands partiront au Canada faire fortune. Et on les retrouvera par la suite. Elle est timide, mais à l'école est naïve aussi. Je reviendrai sur cet aspect de son caractère. Mais à l'école, elle va quand même réussir parce qu'elle sera aidée par Claude. Claude qui deviendra sa seule grande amie. Claude qui a un tempérament qui attire le regard de toutes les autres copines. Et c'est sur Elisa que Claude va affirmer son amitié, un peu son pouvoir, on pourrait dire. Elle grandira donc. Et puis, devenue bachelière, elle va même se marier par amour avec Hervé. Mais Hervé appartient à une grande famille, disons bourgeoise du lieu, beaucoup plus fortunée et entreprenante que ses parents modestes quincailliers. Ce qui fait que sa belle-mère n'acceptera pas ce mariage. Elle sera une ennemie. Mais ils vont quand même connaître, Hervé et Lisa, une année de bonheur, deux années de bonheur, avec deux enfants, Lucas et Benjamin. Malheureusement, Hervé a un accident sur un chantier. Il tombe, on va le conduire à l'hôpital, il sera quelque temps dans le coma, et puis il ne s'en sortira pas, il meurt du tout. De fait, il avait les vertèbres mal en point, donc il n'aurait pas pu survivre longtemps. Et alors, elle se retrouve seule avec leurs deux enfants, avec ses enfants, et elle ne peut compter sur le soutien de ses parents, je l'ai dit, trop modestes. Et c'est Thomas, le frère aîné de Hervé, mal marié et qui était parrain, je crois, de Benjamin, d'un des enfants, et qui va aider, voilà, financièrement Elisa, en faisant en sorte que le salaire d'Hervé continue à lui être versé, même si Hervé a disparu. Donc un soutien vraiment très important. Et c'est grâce à lui aussi qu'elle va pouvoir conserver la maison et le jardin, parce que la belle-mère aurait voulu tout récupérer pour elle. Le jardin que Elisa cultive vraiment amoureusement, en particulier les pois de senteur qu'elle aime beaucoup, et qui fait que son jardin attire les regards parce qu'il est très très beau, à fois potager et puis surtout fleurs. Donc c'est elle l'héroïne, c'est elle qui parlait aux fleurs. Et vous savez que ça fait du bien de parler aux fleurs, que les fleurs s'en rendent compte. Alors Elisa, ainsi, peut-elle élever ses enfants sans crainte du lendemain et travailler pour une association humanitaire, parce qu'elle ne peut pas rester sans rien faire. Il y a une aide pour ses enfants, association humanitaire, SOS Enfants du Congo. Alors voici donc racontée par Jeannine Boissard une vie bien remplie, mais un peu égoïste, je l'ai dit tout à l'heure, par sa naïveté, parce que elle, dans son bonheur, elle ne se rend pas compte que ses parents vivent un désarroi parce que leur quincaillerie ne rapporte pas beaucoup d'argent. Donc vous savez que dans les campagnes, il y a maintenant d'autres, des grandes surfaces, pas très loin, tout ça, et donc qui fait que les gens ont tendance à partir vers ces grandes surfaces. Donc il y a un certain... pourtant, leur boutique est belle, mais voilà. Et donc, elle va soutenir, avec l'aide de Thomas et ses parents. Et puis Melchior, le grand frère, va revenir un moment et il va pouvoir aider les uns et les autres. Parce qu'il a fait fortune, donc, et puis il a de l'entregent, Melchior. Donc. Mais il manque quand même l'essentiel. L'essentiel, comme le dit le petit prince qu'elle a bien étudié à l'école et qui est cité par Jeannine Boissard, l'on ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible aux yeux. Voilà. Et les yeux de l'amour, eh bien, sont incarnés par Thomas, qui était si proche, si attentif à son bonheur, au bonheur d'elle, d'Elisa et aussi des enfants. Et c'est contre l'avis de Falcoche son ancienne belle-mère, qui n'approuve pas du tout non plus cette nouvelle passion, cette entente entre Thomas et Elisa, et qui va s'en prendre au jardin, parce que le maire a la bonne idée de vouloir lancer un concours des jardins de fleurs. Et il propose à Elisa de s'en occuper. Elle va le faire, mais malheureusement, elle ne peut pas vraiment participer à 100% à ce concours des jardins, parce que la belle-mère va le détruire. Mais voilà, ça n'empêche pas que Elisa, dite simplette, connaîtra le bonheur avec Thomas. Voilà ce que je voulais vous dire de ce deuxième roman, superbe roman de « Elle parlait aux fleurs » de Janine Boissard, qui vient de paraître chez Fayard. Le troisième roman sort de l'ordinaire, parce que c'est Franz Kafka ne veut pas mourir. C'est de Laurent Sexic et ça vient de paraître chez Gallimard. C'est pour moi une révélation. Sur la fin de Franz Kafka, mort le 3 juin 1924. C'est terrible parce qu'il a beaucoup souffert les 2-3 dernières années de sa vie. Son décès est lié au sud parce qu'il avait contracté la tuberculose. Il a été dans des sanatorium, puis à l'hôpital, tout ça, mais ça n'a pas réussi à le guérir. Et suite décès lié aux suites d'une laryngite tuberculeuse fulminante ayant entraîné dénutrition et déshydratation. Outre le larynx, la maladie avait envahi les deux poumons, l'intestin et les méninges. Depuis plusieurs jours, le patient ne pouvait plus s'alimenter. Voilà donc un drame terrible. Avec une mise en scène de Franz Kafka, mis en scène par Laurent Sexic, car si nous connaissons les grandes œuvres de Franz Kafka, telles que La Métamorphose, Le Procès, Le Château et L'Amérique inachevée, nous ignorons le plus souvent qui étaient son père et sa mère, des Juifs, comme lui aussi, et les souffrances donc qu'il a dû endurer. Il avait réclamé, il avait dit « Tuez-moi, sinon vous êtes un assassin ». Telles sont les dernières paroles de Franz Kafka qui implore une autre dose de morphine. Il est à Kirling, un sana, à Robert Klopstock, son ami étudiant en médecine, qui est plein d'admiration pour cet écrivain majeur, qui lui aussi avait des problèmes tuberculeux, mais il va pouvoir les guérir, alors que Kafka, non, il ne pourra pas. Donc on le retrouve bien témoin, Robert Klopstock avec Franz Kafka. À son chevet aussi se trouve sa compagne véritable, Dora Diamond, qui veille sur lui. Avec Dora Diamond, Kafka va vivre une année de bonheur, même si désargenté, parce qu'il ne peut plus travailler, donc il est désargenté à Berlin. Elle veille donc bien sur lui, elle est revenue. Et puis tandis qu'Otla, c'est la sœur chérie, la complice qui attend à Prague des nouvelles, sachant qu'il est très malade. Alors, ces trois personnages témoin des derniers moments de la vie de Franz Kafka, Robert, Dora et Otla sont les trois personnages clés de la vie de Kafka et ils entrecroisent leur destin. Dans ce roman, ils entrecroisent leur destin. Marqué au-delà de l'imaginable par la présence de Kafka et de son œuvre qu'ils veulent sauvegarder. Robert, qui va terminer ses études de médecine et devenir un éminent chirurgien à New York, spécialiste justement de la tuberculose, Dora survivra à la persécution nazie, parce qu'après la mort de Franz Kafka, il y aura vis-à-vis des Juifs une persécution nazie terrible, dont je vous en ai un peu parlé le mois dernier. Et puis stalinienne, voilà, parce que comme beaucoup de gens, de jeunes gens, dans ces années-là, on pensait que le communisme qui va l'emporter sur le nazisme était une bonne chose. Donc Dora décide de partir voir du côté de Staline à Moscou. Et elle va tomber sur un personnage très très bon elle va lui parler de Kafka. Il va découvrir Kafka et sera en admiration aussi de Kafka. Et il va lui dire, écoute, sauve-toi dès ce soir, pars loin, va au sud de la Russie. Parce que Staline, il ne peut pas dire qu'il est fou, parce qu'il était un agent de Staline, mais que Staline va provoquer des morts et des déportations terribles. Donc, elle se sauve, elle écoute cet homme, plein de bon sens, et elle va partir donc bien au sud et puis rejoindre l'Irlande. Et elle porte jusqu'à nous, justement, la mémoire de Kafka. Otla, elle va accompagner dans les chambres à gaz un groupe d'enfants juifs après avoir célébré au camp de Theresienstadt, le 60e anniversaire de la naissance de son frère. Voilà pourquoi je voulais vous parler de ce roman, c'est un roman, mais vraiment très très bien réalisé, de Laurent Seksik, qui mêle émotion et érudition pour nous dire d'une manière inédite, vraiment, c'est ce qui m'a touché profondément, la grande histoire et le tragique de vie façonné par l'empreinte d'un géant. Kafka est vraiment un géant de la littérature et on pourrait même dire de la vie. Alors on va faire une pause musicale. J'ai choisi une musique de Franz Schubert. Un autre Franz Schubert, un grand compositeur romantique allemand. Et je vous dirai pourquoi, après, on écoute un rondo de Franz Schubert. Thank you. Voilà une brillante musique de Franz Schubert. Et si j'ai choisi ce grand musicien romantique, c'est qu'il sera mis à l'honneur au cours de 3 concerts exceptionnels donnés à l'auditorium de Pérona par 3 artistes de renommée internationale, les 30 juin, le 1er juillet et le 2 juillet, par Shoko Gamo, pianiste japonaise au jeu fin et délicat, qui revient ici à Bourg, enfin à Pérona, pour nous enchanter, comme elle a déjà fait l'an dernier. Elle sera accompagnée par Anne Lepage, que nous connaissons bien aussi, Anne Lepage, clarinettiste, invitée à Denver, au Colorado, comme soliste, tout de suite après ce concert, et Romain Leleu. Alors Romain Leleu est un trompettiste doté d'un jeu lumineux et virtuose en pleine actualité. Retenez donc déjà ces dates. Le 30 juin, concert trompette et piano à 19h30 à l'auditorium de Pérona. Le 1er juillet, concert clarinette et piano. 19h30 à l'auditorium de Pérona et le 2 juillet, récital de piano, 18h avec Shoko Gamo qui vous interprétera des œuvres de Franz Schubert aussi belles que ce que vous venez d'entendre. Vous trouverez à l'accueil du studio les autres renseignements pour réserver dès aujourd'hui ces trois dates de concerts exceptionnels. Et je reprends mes romans. Alors, le 4e roman nous vient de l'Amérique. C'est vrai que, grâce aux éditions Bellefond, qui me gâtent bien, j'ai reçu ce grand roman, « Les gardiens de la maison » de Shirley Anne Gros, par Bellefond. Ils ont une collection vintage et ils fêtent leurs 10 ans avec ce superbe roman. Shirley Anne Gros est décédée à 91 ans le 3 août 2020, donc c'est pas très très vieux. Cette grande romancière du sud des États-Unis a remporté pour cette histoire épique le prix Pulitzer en 1965. Alors c'est vrai que publié en France la même année, donc en 1967, c'est une réédition, et inexplicablement jamais réédité depuis. Pourtant, c'est un grand roman social, engagé, aux accents féministes, un classique américain largement méconnu, à redécouvrir aujourd'hui sans faute. À travers le portrait subtil et complexe d'une riche famille de la Nouvelle-Orléans, c'est toute l'histoire troublée des États-Unis qui nous est contée. De la fin de la guerre civile au milieu du XXe siècle, donc c'est pas très très vieux, au milieu du XXe siècle, dans une région entre la Nouvelle-Orléans, Mobile et Atlanta, donc assez grande, où la ségrégation raciale reste de mise. Et c'est Abigail, la petite fille, qui parle de cette histoire au début, de la saga des William Holland, toute une saga de propriétaires terriens, de cultures, de forêts, les William Holland. jusqu'à son grand-père, qu'elle admire beaucoup, qui se trouve à la tête encore donc de terres cultivées, de plantations de coton et de forêts. Son grand-père était déjà un vieillard alors que c'était une enfant, mais elle va quand même grandir et être portée un peu par ce vieillard, homme de forte corpulence, aux yeux d'un bleu vif, avec cette main qui se passe sur sa bouche, ses paupières qui battent rapidement, mais il est bien vivant. Et ensuite, ben, c'est elle qui prendra le relais. Alors, ce grand-père va prendre la parole et présenter l'histoire de Margaret Carmichael. Car il a été marié, bon, sa femme est morte, mais il avait une servante qu'il appréciait beaucoup, Margaret Carmichael. Et ben, il va tout naturellement l'aimer et avoir des enfants avec elle. Et même se marier. Mais le mariage, on ne le saura que tardivement. Il s'agit de métissage, sujet brûlant, raconté avec beaucoup de suspense et d'ampleur, car c'est à la fin que les habitants blancs apprendront qu'ils se sont mariés, qu'ils ont eu des enfants, mais que ceux-ci ont été rejetés dans le nord de l'Amérique, pour des raisons de sécurité, car on ne les aurait pas admis à l'école, ces enfants métis. Ils voudront tout détruire par le feu, ces habitants, ces blancs. Donc on est pourtant au XXe siècle, mais il y a encore des clans comme ça. Et c'est Abigail qui veille et qui va trouver un moyen pour sauver la maison. C'est elle qui est la gardienne de la maison. C'est un roman donc dans la grande tradition de la littérature sudiste américaine, comparable à John Steinbeck ou à Flannery O'Connor. Une fresque épique sur une femme forte. Eh bien, il y a eu aussi Margaret qui a été la femme forte, mais là, c'est aussi Abigail, une femme forte et émancipée, ultime gardienne des secrets de sa dynastie, prête à tout pour assouvir sa vengeance contre ceux qui ont bafoué le nom des siens, parce que c'est vrai que les Blancs de l'époque voulaient tout détruire. Voilà, un super quatrième roman, Les gardiens de la maison de Shirley Anne Gros, qui vient de paraître en réédition chez Bellefond. Et je vais vous parler aussi d'un cinquième roman puissant, Les maîtres sans Dieu, de Daniel Croze au Rouergue. C'est un grand roman historique et social, mettant en scène un couple d'instituteurs, Marielle et Silver Tardieu. C'est le nom de ces deux personnages, Marielle et Silver Tardieu, qui prend son nouveau poste à Aigues-Vives, non loin de Rodez. Nous sommes dans les années 1965, mais après on va voir 68, ça vous dit quelque chose, 70 et 80, même avec l'arrivée de François Mitterrand. Alors Daniel Croze, dans ce grand roman historique et social, nous sommes au début, donc en 1965, le couple d'instituteurs, Marielle et Silver Tardieu. Nous les avions connus, déjà rencontrés dans son précédent roman, mais il a voulu développer davantage cette relation d'instituteurs à la campagne. Un village de Rouergue, Aigues-Vives, dans cette campagne très marquée par les querelles scolaires entre écoles laïques républicaines et écoles privées catholiques. Il ne tarde pas à être catalogué comme gauchiste, eux qui n'assistent pas à la messe. Ou MS, parce qu'il y a le dimanche, mais il y a aussi d'autres cérémonies, et donc ils ne fréquentent pas. Même si Marielle a été élevée à la campagne, mais elle ne s'entend plus du tout avec l'un de ses frères et sa belle-sœur. Il y a toujours la mère qui est bien là, mais elle ne peut pas y aller comme elle veut. Une fois qu'elle a eu le certificat d'études, elle voulait, elle, continuer pour devenir institutrice, mais le frère a mis le holà. Elle a dû s'enfuir un petit peu à Rodez, où elle va se lancer dans le métier de la couture, réussir. Et puis, quand elle rencontrera Silver Tardieu, là, un grand amour, il la forcera un peu à reprendre à passer l'école normale, à devenir institutrice. Voilà. Donc, dans ce roman, on retrouve Marielle et Silver Tardieu, nouveaux instituteurs à Aigues-Vives. Et ils vont développer, donc ils ne sont pas bien, ils sont considérés comme des gauchistes, c'est ce que j'ai dit, mais leur engagement auprès de leurs élèves jeunes, de leurs jeunes élèves, et leur volonté de développer l'accès à la culture pour tous, en créant une bibliothèque achalandée, des chansons, apprendre des chansons, créer une chorale, voilà. Et donc de très belles chansons. Et puis même le théâtre, parce qu'il y a un théâtre de la rue qui se propose de venir, tout cela va créer une dynamique vraiment très très bien. Donc, ils vont, les deux jeunes instituteurs, fédérer les bonnes volontés. Et ils seront aidés par des bonnes volontés. De gauche même, on peut dire. Mais, comme j'ai parlé tout à l'heure de 1965 et de 1968, alors que l'époque est au changement et se prépare à l'insu de tous au grand bouleversement de mai 1968. L'éducation nationale est confrontée à la désertification des campagnes. Et oui, et à la fermeture de certaines classes, s'il n'y a pas assez d'élèves. Parce que les gens vont vers les villes. Tandis que les enseignants aspirent à des pratiques pédagogiques plus modernes. Et puis l'Église, elle aussi, va subir une certaine transformation ou des changements par le Concile Vatican II. Donc c'est à cette époque-là aussi, le Concile Vatican II, au moment où la société s'émancipe de la férule des prêtres. On va même avoir les prêtres ouvriers qui vont se mêler à la population, quitter la soutane. Voilà, tout ça est très très bien dit dans ce superbe roman, puissant roman, Les Maîtres sont deux de Daniel Croze, qui vient de paraître au Rouergue. En tant qu'historien, Daniel Croze retrace une période charnière au sein du monde rural, marquée aussi en Aveyron, par le combat des paysans du Lavec. Souvenez-vous, on a voulu supprimer ces paysans du Larzac et mettre à la place des militaires, des caternes, sur ces espaces. Mais bon, la résistance va s'organiser. Et les deux instituteurs participeront un peu à cette résistance des paysans des Larzac. mais aussi plus généralement par l'antagonisme des tenants de l'école privée contre l'école publique. L'exode vers les villes, la fin de l'agriculture familiale aussi, parce que en tant que romancier, nous on plonge dans le destin de Marielle. Marielle qui est le personnage central de ce grand roman, meurtrie par de cruelles dissensions familiales. Elle ne peut pas voir s'occuper de sa mère et sa mère ne peut pas s'occuper de ses enfants, de leurs enfants, accepter leurs deux enfants. Comme elle l'aurait voulu. Donc, elle a trouvé, Marielle a trouvé en Silvère le solide compagnon, qui est aussi un photographe averti, qui va faire de très belles photos et des expositions de photos. Donc, elle a trouvé en Silvère le solide compagnon avec lequel surmonter les épreuves et construire son avenir, mais aussi l'avenir de cette commune d'Aigues-Vives, parce que elle va jouer aussi un rôle dans cette commune d'Aigues-Vives, non seulement en tant qu'institutrice, mais encore, voilà, je ne vous en dis pas plus, mais vous le découvrirez en lisant ce puissant roman de Daniel Crose. Elle incarne le puissant mouvement de libération des femmes du XXe siècle. Un très bel hommage. Un hommage aussi à l'un de ses grands-pères, de Daniel Crose, qui a été un grand instituteur. Les maîtres sans Dieu de Daniel Crose au Rouergue. Et je vous parle d'un sixième roman, un policier, L'oublié, de Florian Denison. C'est L'oublié, c'est le titre de ce roman, de Florian Denison, paru aux éditions L'Oiseau Noir. Vous ne connaissez peut-être pas, moi non plus. C'est une découverte que je fais, autant pour l'auteur, Florian Denison, que pour l'éditeur L'Oiseau Noir. Une grande découverte avec deux histoires policières, deux histoires qui s'imbriquent avec subtilité et suspense. Florian Denison s'est consacré à sa carrière d'écrivain en 2015, après des tournées à travers le monde en tant que musicien professionnel. Il aime raconter des histoires où le suspense tient une place prépondérante. Que ses lecteurs et lectrices vivent une expérience forte grâce à des personnages à la psychologie profonde. Il vit aujourd'hui à Annecy, en Haute-Savoie, dans une belle région que vous connaissez peut-être, j'espère, parce que c'est une très belle région, qui sert de décor à ce nouveau roman, L'oublié, qui vient de paraître. Et je remercie Nelly Mladenov, qui a eu la bonne idée de me le faire parvenir. Dans ce livre, Florian Denison met en scène une jeune fille, Victoria. Victoria qui a disparu sans laisser aucune trace. 11 ans plus tard, elle réapparaît mystérieusement. À l'époque, l'événement tragique de cette disparition avait mis en émoi toute la région, avec des battues pour essayer de la retrouver. Et Maxime Monceau, le personnage, le policier de cette enquête, Maxime Monceau, alors jeune gendarme, s'en souvient encore aujourd'hui. Il a été depuis nommé adjudant-chef. Il est affecté à l'enquête, il est le chef de l'enquête, avec Boris, un autre policier, qui n'accepte pas très bien qu'il soit le chef. Il prétend, ce Boris, que lui aussi aurait pu devenir être le chef. Voilà, bon, c'est pour vous dire qu'il y aura des rivalités entre l'un et l'autre, mais qu'à la fin, ces rivalités vont s'arranger. Ils doivent tenter de répondre aux nombreuses questions qui entourent cette affaire. Qu'a subi Victoria Savigny, l'héroïne, pendant ces 11 années? Où était-elle? D'autres filles sont-elles en danger avec le ou les mêmes prédateurs? Victoria semble bien silencieuse. Pourtant, les heures tournent. La progression de l'enquête est difficile, car il faut se garder des médias qui pensent tout savoir et qui ont un corbeau à la gendarmerie. Des journalistes en quête de scoop, car le retour inespéré de la jeune femme attire tous les regards de ces journalistes. Et il y a vraiment une... Ils mettent ces journalistes, ils essayent vraiment d'en savoir mieux, plus et mieux que les policiers. Ça aussi, c'est ce que l'auteur Florian Denison tenait à mettre à jour. Ces différences, c'est... Voilà. Alors... Le policier, donc Maxime Monceau, est désormais aussi spécialiste du langage non-verbal. Maxime saura-t-il décrypter l'étrange récit de la jeune femme, et même de voir derrière l'arbre qui cache la forêt, vers l'Italie, je vous en dis un peu plus, là, vers l'Italie, s'il n'y a pas aussi une seconde affaire encore plus affolante. Il s'agit bien, dans ce roman, de sauver les potentielles autres victimes. Il y en aura des. Et vous découvrirez que le ravisseur ou les ravisseurs ne sont pas les mêmes. Vraiment un suspense, une manipulation vraiment très bien faite, parce qu'on ne s'attend pas à ces deux fins dernières. Dans ce roman, L'oublié de Florian Denison aux éditions L'Oiseau Noir. Et puis, je vais vous parler aussi des Partisans, un septième roman que je n'avais pas vraiment prévu au départ. Mais Les Partisans, c'est aussi un grand, grand livre. Un grand roman. Par Dominique Bonnat de l'Académie française, qui vient de paraître chez Gallimard. Alors elle mêle les vies de deux géants aussi de la littérature, Joseph Kessel et Maurice Druon. Cette œuvre, c'est une œuvre parce que c'est abondant, 522 pages, cet ouvrage est un retour au pays des grands hommes. Parce que Joseph Kessel et Maurice Druon furent des grands hommes. C'est encore le temps des héros, des aventuriers, des bâtisseurs. La vie ne leur fait pas peur, ils la défient, ils la dévorent, ils la veulent à la mesure de leurs rêves enflammés. L'un est l'oncle, l'autre le neveu. Ensemble, en 1943, ils vont se retrouver à Londres. Parce qu'en 1942, alors qu'ils étaient dans le sud de la France, lorsque les États-Unis et les Américains débarquent en Afrique du Nord, eh bien, les Allemands décident d'envahir le sud aussi. Et eux, juifs, ne peuvent pas continuer à vivre comme si de rien n'était. Donc, en 1942, ils vont partir, ils vont trouver quelqu'un qui va leur un passeur pour rejoindre Collioure, l'Espagne et puis Lisbonne, où ils vont prendre l'avion pour aller à Londres. Et à Londres, ils vont retrouver De Gaulle. Et à Londres, ils ont signé, en 1943, les paroles de l'hymne de la Résistance. Vous savez que cet hymne s'appelle le chant des partisans. Ce sont eux les partisans. Avec l'aide aussi d'une femme, Germaine Sablon. Je vous en reparlerai après. De cette Germaine Sablon, qui était la maîtresse de Joseph Kessel, mais qui était une combattante indépendante. Je pense que c'est pour ça que Joseph Kessel est parti vers d'autres femmes. Plus sage, je dirais, entre guillemets, sauf la dernière. Donc ils ont signé en 1943 à Londres, avec l'accord bien sûr du général de Gaulle, le chant des partisans. Leurs liens familiaux, d'abord tenus secrets, cimentent une relation très forte, marquée par la tendresse et la fidélité, mais aussi par la même passion, écrire. Et Dominique Bonnat a aimé faire revivre ces deux légendes. L'étincelant Kessel, qui était déjà avant la guerre, bon, qui a participé à celle de 14, qui a écrit déjà des romans, L'équipage, tout ça et d'autres. Mais après la guerre, il va continuer à être journaliste, grand reporter à France 3, ce qui va lui permettre de voyager et de rapporter des grands romans que sont Le Lion de Joseph Kessel et Les Cavaliers qu'il tournera en Afghanistan, suite à son voyage en Afghanistan. Donc, grand reporter à François, et peut remercier à la fois Gallimard, qui a cru en lui tout de suite pour l'éditer, et puis à François, qui l'ont considéré vraiment comme un grand reporter. Et puis le Lionceau, Druon, son presque fils, parce qu'il est auteur à panache des Rois maudits, oui, 6 volumes plus un 7e volume des Rois maudits qui ont défrayé les chroniques. Entre eux s'est glissée une femme au parcours non moins romanesque, Germaine Sablon, qui fait partie d'une famille de chanteurs, Sablon, chanteuse et combattante, qui sera une figure indissociable de leur destin entrecroisé. Voilà, ce grand roman Les Partisans, de Dominique Bonnat de l'Académie française, est conçu comme une brillante symphonie, avec 1000 feux, les voix des hommes et des femmes, toute une foule que Joseph Kessel et Maurice Druon ont côtoyé et rencontré dans leurs déplacements, que ce soit à Londres, à Paris, sur la Côte d'Azur et ailleurs, tous ces voyages, même en Israël, pour Joseph Kessel, une découverte Israël, jeune état, et un ouvrage de 522 pages. Je vous dis à bientôt. Vous écoutez Patrice Perrin, l'amoureux des lettres, pour son émission au Café littéraire.